Bonjour à toutes et à tous, 14e numéro déjà de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, une émission présentée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Tout va bien?
Oui, impeccable.
On rappelle Vincent que tu es le président du comité Rodez du souvenir français.
Affirmatif.
Alors, il y a 15 jours, c'est ça, pour notre dernier numéro, la dernière émission, tu nous avais annoncé pour celle-ci une balade sur les routes ruthénoises au moment de la Seconde Guerre mondiale.
Hein, oui.
Si j'ai bonne mémoire.
Eh ben non.
Quoi, ben
on
non.
va pas faire ça.
Ah bon, d'accord.
J'ai menti. Oh bah écoute, on peut mentir aussi, non?
On a tout à fait le droit de mentir en France.
Non, non, non. Oui, on va pas dire ça. On va pas dire que c'est parce que c'est bientôt les élections, c'est pour ça. Je me présente pas. Non. En fait, j'ai changé un petit peu ma programmation parce
oui.
que nous sommes dans la semaine du 1er avril.
Oui.
Alors, ce n'est pas un poisson. J'attendais que tu me la fasses.
Non, mais j'attends le poisson, moi.
Ce n'est pas un poisson. Non, non, nous sommes dans la semaine du 1er avril. Et le 1er avril, c'est le jour de réouverture à la visite d'un des plus beaux monuments de l'Aveyron.
Ouais.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la forteresse royale de Najac.
D'accord, donc on part dans l'ouest de l'Aveyron.
L'ouest. Ouais, on est vraiment proche du Quercy, on est vraiment proche de l'Albigeois. On est aux marches de l'Aveyron.
Alors, cette forteresse royale de Najac, ouais, moi j'ai quelques images en tête. Actuellement, c'est plus ou moins une ruine, mais elle a eu sa belle époque.
Oh, il y a des beaux restes.
Oh, il y a des beaux restes.
Il y a quand même de très 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 beaux restes. Alors, avant de parler réellement de la forteresse, on va dire deux ou trois petits mots sur Najac, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en Aveyron, on a la chance d'avoir 10 villages qui sont classés parmi les plus beaux villages de France, dont Najac fait partie, quand même au niveau touristique, au niveau aura du département à l'extérieur. Et ça, on a beau dire ce qu'on veut, mais les villages qui sont classés parmi les plus beaux villages de France, ça fait quand même venir du monde dans le département.
Ah oui.
Alors, on va les citer quand même, parce que même moi, il a fallu que je regarde.
Ouais,
je les connais tous, mais 10, alors on se dit, mais c'est lesquels les 10?
Bah,
alors, bien entendu, il y a Najac, on vient d'en parler. Belcastel.
Ah bah oui.
Brousse le château.
Ah, connais pas encore.
Ah bon, il faut y aller.
Oui.
C'est le sud, là. C'est un petit peu loin de Rodez, mais faut vraiment que tu y ailles. C'est vraiment magnifique.
D'accord.
Conques.
Oui.
Estaing.
Bien sûr.
La Couvertoirade.
Ah, pareil. Le sud.
Tu connais pas?
Je connais moins bien.
Oh là, là, je vais t'engueuler. Là,
parce mais j'attends les beaux jours.
C'est beau. Mais c'est vrai que quand on passe par là, en général, il y a beaucoup de gens vont à la mer et ils sont pressés d'aller mettre les pieds dans l'eau. Ils s'arrêtent pas forcément à la Couvertoirade.
Oui.
Peyre.
Oui.
Saint-Commodolte.
Saint-Commodolte, à l'est du département.
Sainte-Lalie-Dolte.
À côté.
Et Sauveterre de Rouergue.
Eh ben oui, évidemment, et sa Bastide.
Voilà. Donc, c'est important de les préciser parce que vraiment, ça fait venir du monde et puis on en est fiers. Mais revenons à Najac.
Oui.
Je vais vous parler un petit peu de la genèse de Najac. On en parle déjà dès l'époque romaine. À l'emplacement même de la forteresse se trouvait un castrum, un camp. Un camp militaire romain.
D'accord.
Castrum.
Ouais, ok.
sur la crête rocheuse, c'est vraiment un point stratégique, cette crête, parce que déjà, elle surplombe la vallée de l'Aveyron. Et puis, comme je l'ai dit au tout début, Najac se trouve vraiment aux marches du Rouergue, du Quercy et de l'Albigeois.
Mm-hmm.
Donc, c'est un lieu stratégique vraiment important. En plus, c'était un lieu assez riche. Dans la région proche de Najac, on y trouvait des mines de cuivre. Et également, la terre, la terre est vraiment propice à l'agriculture.
Bonne
donc,
terre.
Très, très bonne terre, voilà. Un lieu vraiment stratégique et un lieu vraiment important.
Alors, qui dit lieu stratégique, lieu important, lieu riche, dit un lieu de bataille?
Mais écoute, Najac, non.
Non? Ils ont été tranquilles.
Najac a eu cette chance-là.
Ah ouais.
Mais bon, il y a toujours eu des fortifications à cet endroit-là. On l'a vu avec le castrum romain.
Mmh.
Au Moyen-Âge, il y avait déjà un château. Enfin, il y a eu un château après ce castrum. Le château, déjà, d'ailleurs, on en parle au XIe siècle dans le célèbre livre des miracles de Sainte-Foy.
Ah ouais.
Donc c'est la première fois qu'on fait vraiment mention d'un château à cet endroit-là.
Château à l'époque en bois ou un château fort comme on les connaît en pierre et tout?
11e siècle, a priori, ça serait... tu fais bien de le préciser, de poser la question, pardon, plutôt en bois.
Ouais.
11e siècle, on est à l'an 1000, ouais. C'est assez rare, les châteaux vraiment en pierre à cette époque-là. Mm-hmm. On va le voir juste après. Le château commence à s'améliorer et à se bâtir en pierre à partir de 1100. Au Moyen-Âge, donc, le château de Najac appartenait au comte de Najac, puis au comte de Toulouse. Voilà, les très 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 célèbres comtes de Toulouse, oui, qui étaient les rivaux du roi de France, mm-hmm, parce que je crois que le comté de Toulouse était vraiment extrêmement important à cette époque-là, et il y avait beaucoup de rivalités. Najac a pas trop souffert de ces événements, mais la région surtout de l'Albigeois a été l'Aude aussi a eu, on le rappelle, la guerre contre les Cathares, la fameuse croisade contre les Albigeois, de 1209 à 1229. Elle opposait les comtes de Toulouse au roi de France et aussi à l'Église, puisque l'Église pensait que le catharisme était une hérésie. Mmh. Alors, par rapport au roi de France, le dernier roi de France, au moment de la fin de la croisade contre les Albigeois, opposait le fameux roi Louis IX.
Ouais.
Louis IX, ça te dit quelque chose,
hein? Saint-Louis.
Saint-Louis, bravo. À un des comtes de Toulouse, hein, qui était Raymond VII. Raymond VII et les Cathares perdent. Le roi de France, Louis IX, et l'Église remportent donc cette croisade. Raymond VII fait allégeance au royaume de France et à Louis IX. Et pour se faire un petit peu pardonner, un signe, on peut dire, de soumission, il offre, en épousailles, sa fille Jeanne, qui est un personnage important, puisque c'est le seul héritier des comtes de Toulouse, de son père, donc Raymond VII.
Un beau parti.
Un très, très, très beau parti. Alors, je suis un peu long sur cette partie, pourquoi ? Parce que, en fait, Najac dépendait, et le Haut-Rouergue dépendait des comtes de Toulouse à cette époque-là. Donc, ce mariage est relativement important. Et on va la marier, pas n'importe qui, on va la marier à Alphonse de Poitiers, qui n'est autre que le frère du roi Saint-Louis. À la mort de Raymond VII, Alphonse de Poitiers, bien entendu, hérite de tous les titres de son beau-père, c'est-à-dire donc du comté de Toulouse, du Bas-Rouergue également, donc, pour ce qui nous intéresse,
de Najac.
De Najac, tout à fait. Alors, Alphonse de Poitiers, on le connaît aussi, on a tendance à l'oublier, peut-être pas les Villefranchois, j'espère qu'il ne l'oublie pas, parce que Alphonse de Poitiers, c'est lui qui a créé Villefranche de Rouergue en 1252.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc important, ah bah important à signaler. Et puis, bon, on ne quitte pas trop la région de Najac, parce que c'est quand même relativement proche. Alors, lui aussi meurt sans héritier.
Ah.
Et sans héritier direct, ce qui arrange bien le royaume de France, parce que du coup, Najac et le comté de Toulouse revient au royaume de France.
Ah, retourne dans l'escarcelle du royaume.
Retourne dans l'escarcelle du royaume de France. Mmh. C'est pour ça que la forteresse de Najac, on parle de forteresse royale. Elle devient forteresse de royale, donc à la mort d'Alphonse de Poitiers.
D'accord.
Alors retournons très légèrement avant la mort d'Alphonse de Poitiers. Pourquoi ? Parce que c'est lui, en fait, Alphonse de Poitiers, pour affirmer un petit peu son pouvoir, proche du pouvoir royal, et c'est vraiment le pouvoir des Capétiens, c'est lui qui va, en 1253, agrandir énormément la forteresse, mmh, et faire, en fait, elle a quasiment pas changé depuis cette époque-là, faire ce qu'on voit
encore aujourd'hui.
Quasiment tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a eu très très peu de modifications depuis le XIIIe siècle. Mmh. On le doit à Alphonse de Poitiers. Les travaux vont être... il a des sous, c'est le petit frère du roi de France.
Oui.
Ceci explique cela. Les travaux vont être assez imposants. Ils vont durer 10 ans.
Ouais, quand même.
On va compter en moyenne 2000 ouvriers qui vont travailler en même temps sur ce chantier. Donc ça va être vraiment, vraiment important. C'est du gothique du nord de la France. Il importe aussi cet aspect-là.
On est au début des cathédrales qui viennent du nord de la France, de cette région-là. C'est l'art gothique.
C'est ce qu'on appelle le gothique d'Île-de-France.
Mmh. Voilà. Oui, oui.
Qu'on va retrouver grâce à lui en Rouergue. Mmh. Donc tout est agrandi. Enfin, comme je l'ai dit, c'est vraiment on cherche vraiment à en imposer, à affirmer le pouvoir des Capétiens, tout simplement. Alors, il y a quelque chose à signaler quand même, c'est la hauteur des, ce qu'on appelle les archères, c'est-à-dire les meurtrières.
Ouais.
Si vous y allez, ça va vous impressionner, c'est vraiment impressionnant. Ces fameuses archères sont les plus hautes archères du monde.
Ah bon?
Eh oui.
Mais pourquoi on avait des plus grands arcs dans le roi que dans le reste du monde?
Les archères, je ne sais pas, ouais. Mais ces archères-là sont vraiment, apparemment, elles n'ont pas été égalées au niveau de leur hauteur.
D'accord.
Elles font 6,80 m de haut.
Ah oui.
C'est vraiment impressionnant.
Oui, effectivement.
En fait, moi, j'y suis allé, j'ai eu la chance de visiter cette forteresse. Le conservateur, que je remercie vraiment beaucoup, Hugo Lavorata, qui a été extrêmement gentil en ouvrant spécialement la citadelle pour que je puisse la visiter, pour préparer cette émission. On est resté plus de 2 heures et m'a fait vraiment faire le tour de tout ce qu'il y avait à voir. Et en fait, si elles sont si importantes, c'est parce qu'elles sont faites de tirer du haut vers le bas. Quand tu es derrière la meurtrière, c'est pas si impressionnant que ça, c'est pas très haut. Par contre, elles partent en descendant et là, en fait, c'est à la sortie, elles font 6,80 m.
D'accord.
Le donjon aussi est assez impressionnant. Le donjon rond fait 40 mètres de haut. C'est vraiment un bel édifice.
Ouais,
un bel édifice militaire.
40 mètres, ça fait 13 étages d'un immeuble d'aujourd'hui.
Ah, ça, je sais que t'aimes bien calculer.
Ouais, ouais. 3,
moi, 3 j'aime pas trop les calculs. Ouais. Bon, on va te faire confiance. Ouais. Je sais qu'à chaque fois, tu tombes juste.
Non, mais c'est haut. 40
mètres, c'est haut. Alors, par contre, ça m'étonne que tu m'aies pas posé une question, déjà.
Ah.
Parce que je parle de château,
ouais.
Je parle de forteresse.
Ouais.
Tantôt château, tantôt forteresse.
Ah, la différence entre les deux. Est-ce
c'est
qu'il
ça.
Y en a une?
Est-ce qu'il y en a une?
C'est vraiment synonyme.
D'après toi.
Oh, bah, si tu m'avances un peu comme ça, c'est que ça doit pas être complètement
synonyme. Je te tends la perche.
Il doit y avoir une différence entre les deux, mais alors, je sais pas laquelle.
Alors, château, en général, on y habite.
Ah bah pas moi, t'habites un château toi?
J'aimerais bien, mais non. Moi je veux dire, c'est un lieu d'habitation.
D'accord.
J'ai pas dit j'y habite, j'ai dit on y habite.
Okay.
Forteresse, c'est plus à usage militaire.
Ah, c'est plus ouais, un truc de un poste de combat.
Un poste de stockage. Ouais, comme je disais, vraiment pour en imposer, qu'on peut rejoindre justement en cas de siège, en cas de problème.
Le noble du coin, le seigneur du coin ne vivait pas dans le château.
Non,
pas fait
du
pour
tout.
Ça.
Il avait
sa petite cabane à côté.
C'est ça, dans le village.
Okay.
Alors maintenant, on le voit, ce village, tout au sommet de ce fameux éperon rocheux, cette crête rocheuse, pardon. Au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, c'était pas du tout là. Il y a l'église Saint-Jean qui se trouve par rapport au village derrière le château,
oui.
Avec des maisons autour.
Oui.
Le premier village de Najac se trouvait justement entre l'église et le château.
Voilà, ça peut se comprendre.
Ça peut se comprendre.
Ouais.
Et il est venu s'agrandir, se prolonger sur cette fameuse crête rocheuse. Mm-hmm. Pareil au Moyen Âge. Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais peut-être vers le au moment où le château a été agrandi par Alphonse de Poitiers, à peu près à cette époque-là, je pense, peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, le premier village, c'est pas celui qu'on voit dès qu'on arrive, c'est celui qui est vraiment derrière. Pareil, fortifié, il reste une très jolie porte fortifiée d'ailleurs, pile entre l'église et le château. Vraiment, je vous encourage à y aller ou à y retourner, parce que beaucoup de d'Aveyronnais ont déjà été y traîner leur guêtre, mais c'est vraiment magnifique. La Révolution française.
Aïe.
Va marquer un temps d'arrêt.
Bah, tu m'étonnes.
Aïe, puis alors, ouille, tu vas voir. Il n'y a pas que aïe, il y a ouille. Oui. Vendu comme bien national, comme beaucoup de choses qui appartenaient aux nobles, à l'église, etc. C'est un commerçant du village qui achète la forteresse.
Ah, oh bah, dis donc.
Pour la transformer en carrière de pierre.
Ah, pas bête non plus.
Pas bête non plus.
Ah bah ouais, c'est pas bête.
Et ouais, les pierres sont déjà taillées.
Ça, c'est un vrai commerçant, tu vois.
C'est ça.
Ah, okay.
Alors, bon Aveyronnais, bon commerçant. Alors, il suffisait de rentrer avec sa charrette, tu chargeais les pierres que tu prenais les pierres, tu arrachais les pierres que tu voulais.
Ah ouais.
Je dis arracher parce qu'on vous a, tu vas voir après. Tu arrachais les pierres que tu voulais, tu chargeais la mule et puis tu devais payer à la sortie.
Bah ouais.
Alors, je sais pas si c'était au poids,
à la pièce, ou si c'était juste
des pierres rectangulaires ou des pierres ouvragées. Alors, c'était arraché de manière un peu anarchique, jusqu'au moment où
ça s'est écroulé.
Le malheur des uns a toujours fait le bonheur des autres.
Ouais.
Un énorme bloc, qui est toujours visible d'ailleurs dans la cour du château, est tombé. Et tu connais l'histoire de Paf les ouvriers?
Oh, je connaissais. Non.
C'est un peu comme Paf le chien.
Ouais, voilà.
C'est des ouvriers qui ont arraché un peu de manière anarchique quelques pierres.
Oui.
Un énorme bloc de plusieurs pierres est tombé et Paf les ouvriers. Les deux ouvriers sont morts.
Non, mais on rigole, mais c'est pas marrant.
C'est relativement triste. Bah, par contre, ça a sauvé le château.
Ah bon ?
Ça a sauvé la forteresse, puisque ça a marqué un coup d'arrêt total à
la carrière.
L'excavation voilà, de la pierre. Et ça a sauvé la forteresse.
D'accord.
Alors, je vais vous parler maintenant des personnages célèbres qui sont passés par cette citadelle.
Ah, il y a des personnages. Le roi ?
Il y en a eu quelques-uns. Pas le roi. Ah, enfin, le roi, oui.
Lequel ?
Pas de France.
Ah bon, là ?
Hélas. Alors, il n'y a jamais eu de combat, il n'y a jamais eu de siège, mais quand même, pendant la guerre de Cent Ans, comme beaucoup de choses dans nos régions, c'est passé au roi d'Angleterre, passé au roi de France, repassé au roi d'Angleterre. Oui. Des fois, ça se passait de manière un peu violente, des fois, c'était un peu plus... un peu plus paisible. Je t'ai laissé les clés sur la porte, tu rangeras avant de partir. Voilà. En fait, c'est le roi Richard Cœur de Lion.
Ah, carrément ?
Carrément, ah, oui,
le
carrément.
Vrai, le seul.
Le seul, l'unique.
D'accord.
Qui est venu en 1185 pour rencontrer le roi Alphonse d'Aragon. Ils se sont rencontrés là pour signer un traité d'allégeance.
Ah ouais, alors comme quoi quand même le lieu était quand même prestigieux, connu, parce que bon, Richard Cœur de Lion, ok, il y avait l'Aquitaine qui était anglaise à l'époque,
oui.
C'était pas bien loin, d'accord. Mais enfin le roi...
l'Aragon avait quelques possessions aussi dans la région. Ouais. Et puis comme je l'ai dit, c'est vraiment Najac, c'est aux marches de plusieurs diocèses, plusieurs provinces. Donc c'est un lieu, oui, c'est vraiment un lieu, on le voit, hautement stratégique.
Hein. D'accord. Donc ces deux rois se sont rencontrés à Najac.
Tout à fait.
Et le roi de France pendant ce temps-là, il dit rien, ouais, venez rentrer, faites comme à la maison, quoi.
Il disait peut-être quelque chose, dans sa barbe.
D'accord.
De loin. Ensuite, je vais vous amener, je vais vous amener un vendredi 13.
Ah.
Et je vais vous amener le vendredi 13 octobre 1307.
Ouais, ça, moi,
je pense
aux Templiers, c'est le jour où ils ont été raflés, entre guillemets,
tout à fait.
Par le roi, enfin, par
tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mmh. Le fruit tombe parfois bien loin de l'arbre. Mmh. Le roi Philippe IV le Bel.
Oui.
Je dis bien loin de l'arbre parce que petit-fils de Saint-Louis. Mais bon.
Ah oui, comme ça, on va dire. Hein.
Des fois, on fait ce qu'on
fait. Il tenait peut-être plus de sa grand-mère que de son grand-père.
C'est ça, tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, Philippe IV le Bel décide le même jour, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour l'époque au Moyen-Âge, dans le plus grand secret, de faire arrêter tous les Templiers présents sur le royaume de France. Mmh. Ça va nous concerner, puisqu'on avait des Templiers en Rouergue, bien entendu. Ah, ouais. Tous ces Templiers-là vont être, en fait, emprisonnés dans des prisons ou des forteresses royales. Donc,
okay.
Najac. Voilà. Les Templiers du Rouergue vont être emprisonnés donc à Najac, pas très très longtemps, de 1307 à 1310.
Quand même, hein, c'est pas toi qui as passé 3 ans dans un cachot du Rouergue.
Tu crois pas si bien dire, justement, le conservateur a eu la gentillesse de me montrer, c'est même pas des cachots, c'est des culs de basse fosse.
Ouais, ouais.
Donc, il n'y a même pas de porte, et on te descend avec une corde dans un trou noir, c'est le cas de le dire. Mm-hmm. Alors, il y a trois commandants templiers qui ont été emprisonnés. Et une quarantaine de frères templiers.
Ah oui, quand même. Hein.
Alors, les trois commandants ont été placés dans le cul de basse fosse d'une des tours de la forteresse, de la forteresse même. Attention, avec latrine.
Ah bah c'est quand même, ils avaient un petit confort.
Luxueux, luxueux. Pour l'époque, c'était luxueux.
Ouais, ouais.
Cul de basse fosse, mais avec latrine.
Très bien.
Et la quarantaine de frères, ils avaient à peu près, j'ai vu, ils avaient semble-t-il, à peu près la même superficie. Peut-être légèrement plus, mais eux aussi étaient dans un cul de basse fosse, mais dans une tour qui se trouvait dans l'enceinte de la forteresse, sans latrine.
Oui,
voilà, donc je pense qu'il devait y avoir un seau. On ne peut pas y descendre, malheureusement, c'est trop compliqué, il faudrait une corde, mais c'est vrai que quand on regarde celle justement des trois commandants, on aperçoit, ce qui est vachement intéressant, on aperçoit des graffitis.
Ah, bah c'est ce que j'allais te demander, s'ils n'avaient pas laissé un peu de traces, des marques, les Templiers.
Alors, il y a quelques marques, pas extraordinaires, pas comparables. Je sais que tu aimes bien justement les Templiers.
Oui.
Une des prisons les plus connues pour les Templiers, c'est, je n'ai pas dit de là, mais une des prisons les plus connues, c'est la porte-tour de Dôme dans le Périgord.
Ah, je ne savais pas.
Elle se visite, et là, par contre, il y a des graffitis vraiment très, 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 très beaux. Vraiment extraordinaires. Là, non, c'est vraiment des petits traits, des petits dessins. Voilà, c'est pas.
Oui, c'est pas spectaculaire.
C'est pas spectaculaire. D'accord. Ça vaut pas le coup
de descendre un rappel
avec une corde pour voir tout ça. Alors, petit rappel aussi pour les commanderies templières, puisque bon, on vient de parler du Rouergue. Elles sont vraiment très très belles en Aveyron. Elles sont mondialement connues. Nous avons au niveau des commanderies, Sainte-Eulalie de Cernon, qui était la commanderie qui régissait, qui commandait toutes les autres commanderies du Rouergue.
Ah, d'accord.
Également la Couvertoirade, la Cavalerie, Saint-Jean d'Alcas et le Viala du Pas de Jau. Par contre, attention, parce que on a tendance à imaginer des choses. Moi, je dis souvent en histoire, des fois, notre cœur voudrait voir ce que nos yeux ne voient pas. Quoi.
Oui, enfin,
c'est un peu compliqué. Quand tu vas à la Couvertoirade, franchement, vas-y, tu verras, c'est splendide. C'est entièrement entouré de remparts.
Oui.
La Cavalerie aussi. Sainte-Eulalie de Cernon aussi. Mais ça n'a rien du tout. Alors nous, on arrive, des remparts, des tours, des créneaux, des machicoulis. On y est, les Templiers vont sortir et tout. Non, ça date pas des Templiers.
Ça date pas de la même époque.
Ça date d'après, 15e siècle. C'est les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Je rappelle que...
Alors, qu'avait quand même à voir avec les Templiers.
Ah, bien sûr, puisque quand l'ordre a été interdit, Philippe IV le Bel, en fait, lui, il a fait interdire l'ordre par le pape parce qu'il voulait récupérer l'argent et les possessions. En fait, le pape a pas trop été très content que le roi lui force énormément la main pour faire interdire l'ordre. Et pour se venger, il a pas donné les possessions présentes sur le royaume de France et l'argent au roi de France, mais il les a donnés à l'ordre des chevaliers des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
D'accord,
voilà.
D'accord.
Donc c'est pour ça que voilà, ils ont quand même un lien relativement important. Voilà pour les personnages célèbres. Il y en a encore trois autres.
Ouais.
Enfin, un autre plutôt.
Ah, c'est pas Johnny Hallyday.
C'est pas Johnny Hallyday.
Non.
Mais
pas loin.
On va peut-être chanter. En fait, le dernier personnage célèbre qui a été incarcéré dans cette, enfin qui est passé, mais lui aussi a été incarcéré comme les Templiers dans cette forteresse, c'est Jean Calmels, dit Lafourque.
Ah ben moi je le connais pas, ce monsieur.
Tu connais pas, mais tu vas voir, tu vas connaître. Il est l'un des trois chefs de la célèbre révolte au tout début du règne de Louis XIV, en 1643, la fameuse révolte des croquants.
Ah oui, d'accord.
Jacob ? Alors non.
Ah bah il y avait la série, la télé.
Je sais.
C'est
je
pas
sais,
le même croquant.
Et non, parce que 1643.
Oui, à Louis XIV.
Oui.
Il était jeune d'ailleurs.
Et alors, la série, tu t'en souviens pas ?
Oh non, je me rappelais un mec avec un chapeau. Mais
on est sous la restauration.
Ah d'accord, merci Vincent.
Je t'en prie.
Alors, donc rien à voir.
Oui. C'est dans le Périgord que j'aime beaucoup, mais c'est pas l'Aveyron. Non, c'est pas du tout. C'est des croquants aussi. C'est un peu la même histoire. Si tu veux, c'est l'écrivain s'est inspiré de cette révolte des croquants qui a été connue dans la France entière.
Ah, ouais.
Mais c'est il y a plusieurs siècles qui séparent les deux. En fait, le dernier nom tu connais, c'est obligatoire, comme beaucoup de Français. Donc on l'a dit, Jean Calmels dit Lafourque, et les deux autres chefs, c'est Brasque dit Lapaille et Jean Petit. Est-ce que tu connais Jean Petit ?
Jean Petit, bah non.
Chers auditeurs, connaissez-vous Jean Petit ?
Non, je connais pas. Je connais Alexandre le Grand.
Oyez, oyez, bonnes gens, je vais vous conter l'histoire de Petit Jean. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de son bras il danse, de son bras il danse, de son bras, 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 et de sa main, et de son doigt. Ainsi danse Petit Jean.
Ah, mais oui, mais
Petit Jean qui danse, Petit Jean qui danse, de son pied il danse, de son pied il danse, de son pied, de son bras, 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 et de sa main. Et de son doigt. Hé, ainsi danse Petit Jean. Bon, on va s'arrêter là parce que ça continue, je te dis pas. Donc, tu vois, on était pas loin de Johnny Hallyday.
Tout à fait. Cette chanson, on a dû l'apprendre à l'école, c'est quand on est petit quand j'en
Oui, oui, mais c'est. Alors, tu vois, on est connu au niveau de la France entière.
Ah, bah oui.
Alors, j'ai cherché sur internet pour avoir les paroles.
Ouais.
C'est classé dans les comptines pour bébés et pour enfants. Parce que c'est joyeux, il danse. Le seul souci, c'est que c'est la torture. On est sur le supplice de la roue qui finit par la mort du supplicié.
D'accord.
Et en fait, chaque fois que le bourreau, donc il faut imaginer une grande roue qui est horizontale par rapport au sol, le supplicié qui est attaché, les bras écartés et les jambes écartées, et le bourreau
qui tape
avec une barre de fer sur chaque membre. Ouais. Et sur chaque membre où il tape, c'est justement là que la chanson dit « De son bras, il danse, de son bras, il danse ». Donc, chers parents, des fois, regardez un petit peu
ce
que vous faites chanter à vos enfants. C'est ça. Alors, en fait, Jean Petit et Lapaille, eux, ont été suppliciés à Villefranche de Rouergue. C'est le premier, donc c'est la Fourque. C'est Jean Calmels qui, lui, a été arrêté dans les bois proches de Najac, enfermé dans la forteresse de Najac et supplicié en place publique à Najac. Voilà. Ouais, bah.
Il n'a pas survécu. Hein. Il...
Ah non, non, mais ça, on ne survivait pas.
Après, oui. Un miracle, on ne sait pas. Mais enfin, là, non.
Là, non. Et même les autres, en général, non. Non, c'était fait pour mourir.
C'était pas un accident.
Sur malentendu, peut-être. Mais je ne pense pas. Surtout que lui, on sait comment il a fini. Mmh. Il a fini séparé en deux.
D'accord.
Sa tête a été retirée de son corps une fois qu'il a succombé. Et sa tête a été exposée. Pendant le temps qu'il ne reste plus rien, quoi, que les corbeaux fassent leur office, à Marcillac.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, c'est gay. Chers auditeurs, ouais. Voilà. Avant de terminer, quand même, il faut que je finisse l'histoire de cette belle forteresse de Najac.
Ben oui.
Elle est aujourd'hui privée. Ouais. Elle a été rachetée en 1905 par la famille de monsieur que l'on connaît, dont on a déjà parlé. Mmh. C'est la famille de monsieur de Montalivet.
Oui, moi je me souviens, tu en avais parlé.
Oui, alors vas-y, pourquoi?
À l'occasion de l'émission sur un autre château, mais celui qui avait accueilli.
Pas château, non, pas château, château. Pas château.
Le dieu.
L'abbaye, voilà, l'abbaye, elle est fortifiée aussi. Donc ta méprise est excusable.
Oui, oui.
L'abbaye fortifiée de Locdieu et donc l'épisode de la Joconde qui a été cachée là-bas avec les trésors du Louvre. Donc achetée par sa famille en 1905, ouverte à la visite dans les années 30.
Oui,
donc ça se visite déjà depuis pas mal de temps. Et une association a été créée dans les années 60 pour vraiment la restaurer, l'entretenir et l'ouvrir au public. Alors, elle a un très bon nom, cette association. C'est un nom qui est vraiment approprié. C'est les défenseurs de la forteresse de Najac.
Ah ben voilà.
Pour pouvoir la défendre contre les affres du temps.
Bien sûr.
Donc, je l'ai dit, cette association a pour but de restaurer. Allez vraiment visiter. Je lance un appel aux auditeurs, aux Aveyronnais, aux gens de passage. Allez visiter parce que l'entrée est pas très chère. Elle est de 6 euros. Mmh. Et le prix du billet est reversé intégralement.
D'accord.
Dans l'entretien et la restauration du château, qui coûte en fait une véritable fortune.
Oui, j'imagine.
Et je crois qu'il touche les pauvres quasiment pas ou très 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 peu de subventions, donc c'est très compliqué. Je sais qu'il n'y a pas longtemps qu'ils se sont fait livrer beaucoup beaucoup de choses par hélicoptère, ouais. Parce que déjà, l'éperon rocheux sur laquelle est la forteresse de Najac est pas évident à y aller, même à pied, vous allez voir, ça va vous faire un petit peu de sport. Et puis en plus, faire rentrer tout le matériel à l'intérieur de la cour du château. Non, c'est vraiment, j'insiste, parce que c'est un patrimoine extraordinaire pour l'Aveyron, classé, où il y a énormément de travaux. On le sait assez peu, mais des fois, entretenir une ruine est beaucoup plus compliqué, on le voit à Pompéi, hein, est beaucoup plus compliqué que d'entretenir quelque chose en assez bon état, avec un toit. Ah oui, oui. Tout ce qui est ce qu'on appelle hors d'eau, c'est vraiment compliqué. Mmh. Alors, quelques horaires pratiques. Bon, vous pourrez trouver tous ces renseignements sur Internet, mais hors saison, vous pourrez visiter la forteresse du 1er avril au 6 novembre, de 10h30 à 13h et de 15h à 17h30. Mmh. Et en haute saison, c'est-à-dire en juillet et en août, non-stop de 10h30 à 19h. Le billet d'entrée, je l'ai dit, est de 6 euros. Alors, c'est 6 euros. Voilà, vous payez 6 euros l'entrée et ensuite, vous choisissez la formule que vous voulez. C'est le même prix. Soit vous visitez librement, soit vous visitez en visite guidée. Alors, juillet et août, apparemment, toutes les 30 minutes, il y a une visite guidée. Il y a quand même pas mal de monde à Najac en été. Ou alors, pour le même prix, vous pouvez bénéficier d'un audio guide.
Très bien.
Alors, je tiens vraiment à remercier monsieur de Montalivet, donc le propriétaire du château, et encore une autre fois, le conservateur, monsieur Hugo Lavorata, pour leur accueil et puis aussi pour tout le travail exemplaire qu'ils font là-bas de conservation, d'entretien, d'accueil des gens. Et puis, voilà, ils nous font remonter dans l'histoire de notre beau Rouergue.
Très bien. Merci beaucoup pour tout ce savoir partagé, Vincent, autour de la forteresse royale de Najac. On se revoit dans 15 jours.
Oui. Alors. Pas de surprise, j'espère.
Ouais.
On va parler dans 15 jours mais de ce dont on devait parler aujourd'hui.
Ah, la balade sur les
routes. La fameuse balade dans Rodez sur tous les lieux de la Seconde Guerre mondiale.
C'est bien noté, Vincent. À dans 15 jours.
À dans 15 jours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.